Chapitre 23. Samedi 12 décembre, le matin. La bouche de Simone est comme remplie de petits bouts de verre. En inspirant, une douleur fulgurante la saisit. Elle essaie de sentir son palais avec la langue, mais elle est enflée et paralysée. Elle tente d'ouvrir les yeux, mais ses paupières se soulèvent à peine. Il lui est impossible d'interpréter ce qu'elle voit. Lentement, des lueurs fugitives apparaissent, du métal, des rideaux. Eric est assis sur une chaise à côté d'elle et lui tient la main. Ses yeux sont creusés et fatigués. Simone tente de parler, mais sa gorge semble à vif. « Où est Benjamin ?» Eric tressaille. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demande-t-il. « Benjamin » chuchote-t-elle. « Où est Benjamin ?» Eric ferme les yeux. Sa bouche se tend. Il déglutit et la regarde dans les yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demande-t-il à mi-voix. « Je t'ai retrouvé par terre, Sixane. Ton pouls était très faible et si je ne t'avais pas trouvé ?» Il passe la main sur sa bouche et parle entre les doigts. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle peine à respirer. Elle déglutit plusieurs fois. Elle comprend qu'on lui a fait un lavage d'estomac. Elle ne sait pas quoi dire. Elle n'a pas le temps d'expliquer qu'elle n'a pas essayé de se suicider. Ce qu'il pense n'a pas d'importance. Pas maintenant. Lorsqu'elle tente de secouer la tête, elle se sent mal.
« Où est-il »
chuchote-t-elle.
« Il a disparu.
De quoi est-ce que tu parles ?» Les larmes coulent sur ses joues.
« Il a disparu !»
répète-t-elle. « Tu étais dans le vestibule, chérie. Benjamin était déjà sorti quand je me suis levée. Vous vous êtes disputé ?» Elle tente de secouer la tête une nouvelle fois, mais n'en a pas la force.
« Il y avait quelqu'un dans notre appartement qui l'a enlevé !»
dit-elle faiblement.
« Qui ?»
Elle pleure et gémit tout à la fois.
« Benjamin ?»
enchaîne Eric. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Benjamin ?»«
Oh mon Dieu »
murmure-t-elle. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Benjamin ?»«
Quelqu'un l'a enlevé !»
Eric a l'air terrorisé. Il regarde autour de lui, passe une main tremblante sur sa bouche et s'agenouille près d'elle.
« Raconte-moi ce qui s'est passé !»
dit-il d'une voix qu'il s'efforce de maîtriser.
« Simone, qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai vu quelqu'un traîner Benjamin dans le vestibule. »
dit-elle d'une voix à peine audible.
« Comment ça, traîner? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'ai été réveillée en pleine nuit par une piqûre dans le bras. On m'a fait une piqûre, quelqu'un m'a donné... »«
Où ? Où est-ce qu'on t'a fait une piqûre ?»«
Tu ne me crois pas ?»
Elle essaie de retrousser la manche de sa chemise d'hôpital. Il l'aide et trouve une petite trace rouge sur le haut du bras. Il tâte du bout des doigts l'enflure autour de la piqûre, son visage blêmit.
« Quelqu'un a enlevé Benjamin !»
dit-elle.
« Je n'ai rien pu faire !»«
Il faut qu'on sache ce qu'on t'a injecté !» dit-il en appuyant sur la sonnette d'appel.
« Laisse tomber, je m'en fous. Il faut que tu retrouves Benjamin !»«
Je vais m'en occuper !» dit-il d'un ton laconique. Une infirmière entre. Eric lui demande de procéder à une prise de sang. Elle repart en hâte. Eric se retourne de nouveau vers Simone.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Tu es certaine d'avoir vu quelqu'un traîner Benjamin dans le vestibule ?»«
Oui, »
dit-elle, le désespoir dans la voix.
« Mais tu n'as pas vu qui c'était ?»«
Il a tiré Benjamin par les jambes à travers le vestibule et il est sorti par la porte. J'étais allongée par terre. Je n'arrivais pas à bouger. »
Les larmes se remettent à couler. Il la prend dans ses bras et elle pleure contre sa poitrine, épuisée, désespérée, le corps tremblant. Après s'être un peu calmée, elle le repousse doucement.
« Eric, il faut que tu retrouves Benjamin. »«
Oui, »
dit-il. Puis il sort de la pièce. L'infirmière frappe à la porte et entre. Simone ferme les yeux pour ne pas avoir à la regarder remplir les quatre petits tubes de sang. Eric se rend à son bureau à l'hôpital. Il se remémore le trajet du matin dans l'ambulance, après qu'il eut retrouvé Simone inanimée par terre, presque sans pouls. La traversée de la ville aux heures de pointe, les lumières, les voitures qui s'écartaient, montaient sur les trottoirs. Le lavage d'estomac, l'efficacité de la femme médecin, son assurance, sa rapidité, la mise sous oxygène et le rythme irrégulier du cœur sur les écrans noirs. Eric allume son téléphone dans le couloir et s'arrête pour écouter ses messages. Hier, un officier de police du nom de Roland Svensson a tenté de le joindre à 4 reprises pour lui proposer une protection policière. Il n'y a aucun message de Benjamin ou de quelqu'un qui soit susceptible d'être impliqué dans sa disparition. Il appelle Aïda. Quand, de sa voix haut perchée et tenaillée par l'angoisse, elle lui dit n'avoir pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Benjamin, il sent une vague de panique le pétrifier. « Il aurait pu aller à cet endroit, à Temsta ?»«
Non, »
dit-elle. Eric téléphone à David, le plus vieil ami de Benjamin. C'est la maman de David qui décroche. Quand elle lui dit ne pas avoir vu Benjamin depuis plusieurs jours, il raccroche, coupant net le flot de paroles inquiètes. Il compose le numéro du laboratoire de prélèvement pour connaître les résultats des analyses, mais ils ne peuvent pas encore donner de réponse. Le sang de Simone vient juste d'arriver. « Je reste en ligne, » dit-il. Il les entend travailler et, après un moment, le docteur Valdés prend le combiné et dit d'une voix rauque
« Bonjour, Eric. On dirait que c'est du rapifène ou quelque chose de semblable contenant de l'alphentanil. »«
Alphentanil ? L'anesthésique ? » ?»«
La personne a dû s'en procurer dans un hôpital ou une clinique vétérinaire. Nous en prescrivons très peu, ça entraîne une très forte dépendance. Mais on dirait que ta femme a eu une sacrée chance. »
Comment ça ?
Elle est en vie.
Eric retourne dans la chambre de Simone pour lui demander des détails sur l'enlèvement, tout revoir encore une fois, mais s'aperçoit qu'elle s'est endormie. Ses lèvres sont gercées et crevassées à cause du lavage d'estomac. Le téléphone sonne dans sa poche. Il sort dans le couloir avant de répondre. Oui ?
C'est Linéa à l'accueil. Vous avez de la visite.
Il lui faut quelques secondes pour comprendre qu'il s'agit de l'accueil du service de neurologie, ici, à l'hôpital, de Linéa Åkerson, qui y travaille depuis 4 ans.
« Docteur Bark ?»
demande-t-elle prudemment. « J'ai de la visite. Qui est-ce »«
Yona Lina. » »«
Bien. Demandez-lui de monter en salle de repos. Je l'attends là. » Eric raccroche et reste planté au milieu du couloir, tandis que les pensées défilent à toute vitesse dans sa tête. Il pense au message sur son répondeur, à Roland Svensson qui a appelé plusieurs fois pour lui proposer une protection policière. Que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un l'a menacé? Pourquoi un inspecteur de la Rikskrim, tel que Yona Lina, vient-il le voir en personne plutôt que de lui téléphoner? Le sang se glace dans ses veines. Il se rend en salle de repos, regarde les cloches en plastique qui recouvrent les tranches de fromage et le jambon, sent la douce odeur du pain tranché. Une sensation de nausée s'empare de lui. Ses mains tremblent tandis qu'il verse de l'eau dans un verre ébréché. Yona vient m'annoncer qu'ils ont trouvé le corps de Benjamin. C'est pour ça qu'il vient personnellement. Il va me demander de m'asseoir, puis m'expliquer que Benjamin est mort. Eric ne veut pas affronter cette idée. Mais elle ne s'en va pas. Il n'y croit pas, il refuse d'y croire. Mais elle revient sans cesse. Des images terrifiantes se succèdent de plus en plus vite dans sa tête. Le corps de Benjamin dans un fossé, sur le bord de l'autoroute, dans des sacs poubelles noirs au milieu d'une forêt ou échoué sur une plage boueuse.
« Un café ?»«
Quoi ?»«
Je vous sers un café ?»
Une jeune femme aux cheveux d'un blond éclatant se tient près de la cafetière électrique, la verseuse à la main. Le café, fraîchement préparé, fume. Elle le regarde d'un air interrogateur. Il s'aperçoit qu'il a une tasse vide dans la main et se contente de secouer la tête. Au même instant, Yona Lina franchit la porte.
Asseyons-nous, dit Yona.
Son expression est troublée, son regard fuyant.
D'accord, murmure Eric après quelques secondes.
Il s'installe à la table du fond avec sa nappe en papier et sa salière. Yona se gratte un sourcil et chuchote quelque chose.
Quoi ? Demande Eric.
Yona se racle la gorge et dit ensuite
« Nous avons essayé de vous joindre. »«
Je ne répondais pas à mon téléphone hier, » dit Eric d'une voix faible.
« Eric, je suis navré de devoir vous annoncer que... »
Yona se retient brièvement, lui adresse un regard gris comme le granit et explique
« Yosef Ek s'est enfui de l'hôpital. »«
Quoi ?
Vous avez droit à une protection policière. »
La bouche d'Eric commence à trembloter et ses yeux s'emplissent de larmes.
C'est ce que vous aviez à me dire? Que Joseph s'est enfui?
Oui.
Eric est tellement soulagé qu'il doit réprimer l'envie de s'allonger par terre et de dormir. Il s'essuie rapidement les yeux.
Quand est-ce qu'il s'est enfui?
Hier soir.
Il a tué une infirmière et blessé grièvement un homme.
Eric hoche la tête plusieurs fois. Il réfléchit très vite et voit se dessiner un nouveau schéma, terrifiant.
Il est venu chez nous en pleine nuit et a enlevé Benjamin, dit-il.
Qu'est-ce que vous dites?
Il a enlevé Benjamin.
Vous l'avez vu?
Pas moi, mais Simone.
Que s'est-il passé?
On a injecté à Simone un puissant anesthésique, dit lentement Eric. Je viens d'avoir les résultats. C'est de l'alphentanil, un produit généralement employé pour des interventions chirurgicales lourdes. Mais elle va bien. Elle se remet doucement.
Yona hoche la tête et note le nom du médicament.
Simone dit que Joseph a enlevé Benjamin?
Elle n'a pas vu son visage.
Je vois.
Vous allez retrouver Joseph?
On va le trouver, ne vous inquiétez pas. Une alerte a été lancée au plan national, répond Yona. Il est très mal en point. Il n'ira pas bien loin.
Mais vous n'avez aucune piste.
Yona lui adresse un regard sévère.
Je pense que nous l'attraperons bientôt.
Bien.
Vous étiez où quand il s'est introduit chez vous?
Je dormais dans la chambre d'amis. J'avais pris un cachet, je n'ai rien entendu.
Donc, en arrivant chez vous, il n'a vu que Simone dans la chambre à coucher.
Probablement.
Mais ça n'a pas de sens, dit Yona.
On peut facilement passer à côté de la chambre d'amis sans la voir. Elle ressemble plus à une penderie et, quand la porte des toilettes est ouverte, elle en cache l'entrée.
Ce n'est pas ça. Je veux dire que cela ne ressemble pas à Joseph. Il n'administre pas de piqûres aux gens, il a un comportement bien plus agressif.
Peut-être que ça n'a l'air agressif que pour nous, dit Eric.
Comment ça?
Il sait parfaitement ce qu'il fait à tout moment. Par exemple, vous n'avez pas retrouvé de sang appartenant à son père dans la maison.
Non, mais cela indique qu'il procède de façon systématique, calculée. Imaginez qu'il ait décidé de se venger de moi en enlevant Benjamin.
Le silence s'abat. Du coin de l'œil, Eric voit la blonde près de la cafetière qui sirote son café en regardant les bâtiments de l'hôpital au dehors. Yona baisse les yeux sur la table, puis affronte le regard d'Eric. D'un air sincère, il lui dit avec son accent finlandais, doux et chaleureux,
« Je suis vraiment navré, Eric. »